question.
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver à mes auditeurs pour une rediffusion estivale assez chaude aujourd'hui. Autour du sexe, à quoi sert le sexe? Étrange question, me direz-vous. Sauf que sans le sexe, nous ne serions pas là pour nous la poser, ni aucune autre forme de vie sur Terre d'ailleurs. Mais comment raconter la grande aventure du sexe? Des rites amoureux les plus improbables, à l'invention des mâles et des femelles, pourquoi y a-t-il des pénis et des vagins, en passant par le pseudo-sexe des bactéries ou la reproduction des champignons, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander, notre invité. Léo Grasset s'était fait un plaisir d'y répondre, scientifiquement, avec humour et sans aucun tabou sur notre antenne, c'était en décembre dernier, à l'occasion de la sortie en bande dessinée chez Delcourt de La Grande Aventure du Sexe. Une aventure à partager ensemble, évidemment, autour de la question « Pourquoi le sexe ?» Bienvenue. Bonjour Léo Grasset.
Bonjour.
Merci d'avoir profité de votre passage à Paris pour être en direct avec nous. Vous êtes installé en Thaïlande, biologiste de formation. Vous avez choisi depuis quelques années de faire passer votre science, celle des choses vivantes ou qui semblent l'être, hein, je vous cite, sur la toile. Votre chaîne YouTube Dirty Biology connaît un immense succès, plus de 500 000 abonnés et pour cause. Vous n'avez pas dessiné par votre frère, Colas Grasset, qui vient de paraître aux éditions Delcourt. Pourquoi et comment raconter cette grande aventure du sexe en BD et toujours sans tabou?
Oui, ben c'est un projet qui a commencé quand j'ai rencontré donc mon éditrice Marion, et on s'est demandé ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait raconter en BD qui soit intéressant pour le grand public. Puis forcément, moi je me suis dit, ben le sexe, c'est intéressant, ça intéresse tout le monde, et c'est quelque chose que j'avais déjà essayé dans les vidéos avec en parlant de la diversité des formes de pénis ou la diversité des formes de vagin. Et donc bon, ça a plu à tout le monde ce projet, ça a plu à mon frère qui est déjà illustrateur et animateur, donc on s'est dit, ben, on va partir là-dessus.
Sujet porteur et sans lequel nous ne serions pas là, Léo, ni vous ni moi, pour en parler. Hein.
Ben nous, en tout cas, oui, non. Nous, on est une espèce avec une reproduction sexuée, donc on peut pas faire de clonage. Donc si on fait pas de sexe, on n'est pas là, c'est sûr.
Histoire de sexe donc et d'évolution, depuis le pseudo-sexe des bactéries jusqu'à l'invention des pénis et des vagins, le sexe a-t-il toujours existé? Piste de réponse extraite justement de votre chaîne YouTube Dirty Biology, à ne pas mettre entre toutes les oreilles, remix évidemment sexuel et sexué, signé Anthony Bellard.
Pourquoi est-ce qu'il y a des mâles et des femelles? Bon, reprenons depuis le départ. Au début de l'histoire de la vie, les organismes se reproduisaient sans sexe. Ils se divisaient simplement, pif pouf, reproduction, copie. Pas de mâle ni de femelle ici, tout le monde est pareil. Comme chaque individu donne la moitié de son ADN pour en créer un troisième, la solution la plus simple qui a été trouvée est que chaque partenaire crée une cellule spécialisée qui contient cet ADN. Ces cellules spécialisées s'appellent des gamètes, et chez nos très lointains ancêtres, elles étaient de la même taille. Avec le temps, ces cellules sexuelles ont commencé à changer. L'une est devenue plus petite, ce qu'on appelle par définition un spermatozoïde, et l'autre est devenue plus grande, ce qu'on appelle par définition un ovule. C'est juste leur définition biologique. Pourquoi les hommes ont-ils un phallus? Pourquoi certaines espèces n'en ont pas? Et à quoi sert vraiment un pénis?
Cette vidéo contient des extraits de copulation animale, des photos et vidéos de pénis d'animaux, et même des explosions.
On peut donc maintenant répondre à rentrer à l'intérieur de la femelle pour y déposer le sperme, mais pas que. Ils servent aussi à trouver l'entrée, boucher, nettoyer, s'accrocher, mutiler, stimuler, transpercer, aveugler, voire même jouer de la musique. De la même façon que pour les chiberons, les organes sexuels féminins, dont on a si peu parlé jusqu'à présent, ont aussi évolué pendant des millions d'années, et pour tout bien comprendre, il faut faire un peu d'anatomie de base. C'est chez les ancêtres communs des mammifères terriens, un groupe qui comprend les marsupiaux et nous, qu'on le retrouve pour la première fois. C'est un organe qui n'existait absolument pas avant et qui n'a aucun homologue dans le monde vivant, alors les filles, soyez fiers de votre vagin, il est unique. Mais nous n'avons fait qu'effleurer la surface du monde enfoui et merveilleux des organes génitaux féminins, qui peuvent d'ailleurs avoir un nombre de fonctions très impressionnant. Bref, le monde vivant est un monde qui manque cruellement de classe, et on vit vraiment au milieu d'une biologie sale, 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 sale,
sale,
sale, sale.
Sale, la biologie, dirty biologie, vous n'avez pas honte Léo Grasset?
Ah non, j'ai absolument pas honte. Non, en fait je trouve que quand c'est un peu sale, c'est vraiment intéressant.
Expliquez-vous, un peu sale, ouais. Et très intéressant.
En fait, on a, je pense, nous, tout un tas de préconceptions morales, on a une vision esthétique, peut-être, voilà, on a des limites, des tabous, et le vivant, le monde vivant, dans son incroyable diversité, ne s'embarrasse absolument pas de ce genre de concept. Au contraire, voilà, le concept de sale, de crade, de tout ça, n'existe pas vraiment en dehors des humains, et donc, le monde vivant pratique avec allégresse, je sais pas, la nécrophilie, les plans à plusieurs, le mélange de sperme, on parle même de gangbang, dans la bande dessinée. Donc voilà. Et moi, je trouve ça vachement intéressant parce qu'on peut se dire, si ça existe, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça, quelque part, quand c'est un peu sale, un peu crade, ça provoque, ça stimule la curiosité, ça donne envie de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là.
Pourquoi et comment une telle diversité ? On peut peut-être commencer par le début. Qu'est-ce que c'est que le sexe ? Compliqué de le définir, parce que quand on dit le mot sexe, on entend pas mal de choses en même temps.
Ouais, en fait, c'est ça le problème. C'est que c'est un mot qui a vraiment plein de sens en même temps. Vraiment, au sens, moi je suis biologiste évolutive et quand j'entends le mot sexe, j'entends mélange d'ADN de deux individus différents. Mais le problème, c'est que sexe, ça veut aussi dire l'identité génétique, si c'est un mâle ou une femelle. Ça veut aussi dire l'acte reproducteur, ou même juste pour le plaisir. Donc ça mélange plein de concepts et il faut réussir, quand on est vulgarisateur, à détricoter tout ça et à dire, voilà, moi je vais parler de ça et comment est-ce qu'on en est arrivé à ça et en quoi ça c'est lié à ça.
Et comment tout ça a commencé justement ? Comment le sexe a commencé ? Il faut remonter aux toutes premières cellules, c'est ça, qui échangent leur ADN.
Voilà, alors, donc on parle pas vraiment de... Donc c'est pas de la reproduction sexuée. Donc nous, en fait, on fait la reproduction et le sexe en même temps, au même moment.
Nous
les mammifères, et puis même tous les amniotes, enfin tous les trucs qu'on
les
a.
Animaux.
Quand on imagine les animaux, voilà, c'est tout ça fait de la reproduction sexuée. Après, énormément de micro-organismes font le sexe d'un côté et la reproduction de l'autre. Donc, par exemple, les bactéries, qui sont des organismes vivants, vont s'échanger de l'ADN. Ils ont plein de façons différentes de s'échanger de l'ADN. Et en ce faisant, elles font ce qu'on appelle littéralement du sexe, c'est-à-dire que elles vont échanger du matériel génétique et le résultat sera un individu différent. Le fait est qu'elles le font pendant leur vie. C'est-à-dire que si nous... c'est pas pour se reproduire. Si, pour se reproduire, elles ont juste à se cloner et voilà, elles se sont reproduites.
Mais elles font quand même du sexe.
Mais elles font du sexe. C'est-à-dire qu'au cours de sa vie, une bactérie va récupérer du matériel génétique à droite, à gauche. Elle va récupérer du matériel de certaines bactéries qui sont mortes. Elle va récupérer du matériel d'autres bactéries avec qui elle peut se conjuguer. Donc voilà, elles ont différents outils pour se changer au fur et à mesure de leur vie. Et nous, si on pouvait faire ça, ce serait assez incroyable. Ça voudrait dire qu'on pourrait récupérer de l'ADN d'humains morts, ou on pourrait récupérer de l'ADN de nos partenaires et changer effectivement notre génome. Bon, le fait est que c'est impossible pour tout un tas de raisons. Donc nous, en fait, on fait du sexe juste au moment où on se reproduit, au moment où on est une cellule, c'est-à-dire quand on est un gamète.
Et le sexe a aussi démarré quand les organismes sont sortis de l'eau. C'est quand même lié à la sortie de l'eau.
Alors là, c'est un autre type de sexe. Donc là, encore une fois, le mot sexe, il a plein de sens. Ça veut aussi dire les organes sexuels. Les organes sexuels, comme on les connaît, ils ont évolué. Alors, toute première trace d'organes, donc pénis et puis vagin, enfin utérus, sont apparus un petit peu avant la sortie de l'eau. Mais là où ils ont vraiment rencontré un franc succès, c'est pendant la sortie de l'eau, parce que c'était extrêmement pratique comme tuyau, en tout cas, le pénis est juste un tuyau, pour transvaser des gamètes, donc les gamètes mâles, dans le corps de la femelle à l'intérieur de son corps. Le truc, c'est que habituellement, dans le monde vivant, la méthode très classique quand on est dans l'eau, c'est juste lancer le sperme dans l'eau et puis attendre que ça arrive sur une femelle comme ça au hasard. Donc ce que font par exemple les oursins, et eux pour faire ça ils larguent une quantité considérable de sperme par rapport à leur volume, c'est juste incroyable. Sinon on faisait ça, ça remplirait je pense des salles entières. Mais voilà, bon eux ils font ça. Mais nous, comme on est sur la terre ferme, si on faisait ça, ça sécherait par terre, ça aurait aucun sens. Et les femelles, si elles laissaient juste leurs ovules par terre, comme font les amphibiens d'ailleurs, ils sécheraient. D'ailleurs, les amphibiens, en fait, ils sont contraints à rester dans un milieu aquatique pour pas que les ovules sèchent. Mais si on veut être complètement indépendant du milieu aquatique, il faut trouver une autre méthode que laisser juste les ovules par terre et attendre qu'un mâle vienne les féconder. Et donc ça, pour ça, la solution qui a été trouvée, c'est la fécondation interne. Et pour faire de la fécondation interne, il faut des organes sexuels, donc des pénis et des vagins.
Alors pour ce qui est des pénis et des vagins, je pense que votre frère Colas a dû bien s'amuser pour les dessiner parce qu'il y en a une diversité absolument incroyable. Et
les a presque tous dessinés, on va dire.
Oh, si seulement, si seulement.
Non, non, non. Il n'a pas pu.
Ah, non. On en a dessiné quoi, une vingtaine, mais
c'est déjà pas mal.
Mais il
hein.
y en a une. En fait, c'est complètement ahurissant la diversité des organes sexuels. C'est d'ailleurs sur le corps, quand on regarde à l'échelle un peu large sur les différentes espèces, c'est la partie du corps qui évolue le plus vite, parce que en fait, pour tout un tas de raisons.
La partie sexuelle, sexuée, ouais, hein, que ce soit le pénis vraiment, ou les vagins.
C'est ça. Pénis et vagin évoluent extrêmement vite. Par exemple, si on regarde les en ce moment, là, il y a pas mal d'actualités scientifiques qui sortent, et c'est sur les organes génitaux féminins des dauphins et des baleines. Et on est en train de se rendre compte qu'en fait, chez les dauphins, il y a à l'intérieur des femelles des clapets, des cul-de-sac, enfin, que c'est extrêmement compliqué. C'est pas juste un tube qui amène aux ovules, mais qu'il y a tout un labyrinthe, il y a des systèmes pour empêcher l'eau de rentrer, pour choisir le sperme du mâle qui va féconder les ovules, et donc mettre le sperme des mâles qu'elles veulent pas à la poubelle. Enfin, bref. On est en train de se rendre compte que ça évolue très vite et que c'est, pour un biologiste évolutif, un terrain de jeu incroyable en termes scientifiques.
Le sexe, terrain de jeu pour les scientifiques, mais pas seulement. Je propose de faire une petite pause à l'ombre de la canopée en écoutant votre choix musical, Léo Grasset, Polo and Pan. Je ne sais pas s'il faut y voir une contrepèterie. Le morceau s'appelle Canopée sur RFI. Morceau de Polo and Pan sur RFI. Pourquoi ce choix, Léo Grasset? Faut-il y voir une allusion sexuelle? Très joli morceau, d'ailleurs.
Ah bah, bien sûr, il faut y voir une allusion sexuelle. On est là pour parler de ça. En fait, j'avais hésité avec un morceau de samba parce que je trouvais que c'était aussi tropical.
Un peu chaud,
voilà.
Oui.
Mais en fait, celui-là, il me plaît bien parce qu'il est tout doux et en même temps très sensuel et en même temps tropical, sous la canopée. Donc ça évoque un peu du sexe. Non, ça me plaît bien. Ouais.
Autour de la question pourquoi tant de sexe dans la nature, je propose un nouvel éclairage, celui d'une biologiste et éthologue, Audrey Dussutour, qui s'est fait connaître, elle, pour ses recherches sur le blob, un étrange organisme primitif, unicellulaire, une cellule géante et rampante, qui n'est ni plante, ni champignon, ni animal, et qui a pourtant d'étonnantes particularités, notamment sexuelles. On écoute Audrey Dussutour.
Le blob, il a 1 milliard d'années, et il présente 720 types sexuels, et de nombreux unicellulaires présentent de nombreux types sexuels. Je voulais savoir pourquoi dans l'évolution, chez les animaux et les plantes, on a convergé vers juste 2 sexes.
Votre réponse, Léo Grasset.
Alors déjà, expliquer pourquoi il y a autant de types sexuels, ça me semble intéressant.
C'est des organismes unicellulaires, très primitifs.
Très primitifs. Mais en fait, si on réfléchit, ça serait beaucoup plus facile la vie si on avait plus de types sexuels. Parce que si on envoie, par exemple, un gamète, mettons que je sois de type A, et il y a 750 autres types, et donc je suis incompatible juste avec les types A comme moi, mais je suis compatible avec les 550 autres. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai une chance sur 750, quelque part, de tomber sur quelqu'un qui est compatible avec moi. Alors qu'aujourd'hui...
Et donc de me reproduire.
Et voilà, donc de me reproduire. Alors qu'aujourd'hui, bah, nous, par exemple, on a juste deux types sexuels, donc en fait, j'ai juste une chance sur deux, et pas une... Tu vois. Donc c'est, en fait, c'est beaucoup plus difficile pour nous, avec seulement deux types sexuels, de trouver un partenaire que quand il y en a 20 000, comme chez certains champignons. Alors, pourquoi est-ce qu'on est tombé sur deux ?
Mais oui, deux sexes.
Et d'ailleurs,
parce qu'aujourd'hui, il n'y a que deux sexes. Il y a des transgenres, mais c'est autre chose.
Voilà, donc là, on parle de sexe au sens, encore une fois, pour revenir sur ces histoires de définition de sexe, là, on parle de la définition gamète mâle et gamète femelle. Donc, je suis complètement d'accord pour dire que le sexe, le déterminisme du sexe, c'est très fluide. On est sur un gradient, etc., de mâle à femelle. Mais là, en fait, le truc, c'est qu'on dit un mâle, c'est l'individu qui produit le spermatozoïde et la femelle, c'est l'individu qui produit l'ovule. Voilà, donc là, pour l'instant, il n'y a que deux types. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ces deux types ? Donc, il y a plein de travaux de recherche qui explorent un peu cette question. Il n'y a pas une seule idée qui marche pour tout expliquer. Mais celle que j'aime bien et qui me semble la plus simple, c'est en fait tout simplement parce que les mâles, à un moment donné, ont triché. Donc, au départ, on était avec donc deux... donc, c'est ce qu'on appelle l'anisogamie. On était avec deux gamètes qui étaient de la même taille, ou plus d'ailleurs, plus que deux. Et à un moment, un de ces gamètes a, entre guillemets, pas décidé, puisqu'il n'y a pas de choix nulle part dans l'évolution, mais il a commencé, comme ça, par hasard, au cours d'une mutation, à devenir un peu plus petit. Et sachant que l'individu qui les produit peut, comme ils sont plus petits, chacun d'entre eux est plus petit, peut en produire plus. Si moi, par exemple, je suis un mâle, je peux produire 200 millions de spermatozoïdes, tandis qu'une femelle, avec les mêmes ressources, elle pourra produire un seul ovule.
Donc c'est plus économe d'être un mâle. Les mâles, c'est plus économe d'être un mâle.
On peut, en tout cas, en tant que mâle, propager beaucoup mieux notre matériel génétique, parce qu'on peut envoyer un spermatozoïde par individu, donc on pourrait potentiellement, si on voulait, faire 200 millions d'enfants. Hein. Bon, personne ne le fait jamais, mais c'est juste pour expliquer qu'en gros... l'astuce, entre guillemets, qui a été trouvée par hasard au cours de l'évolution par les mâles, c'est de faire avec les mêmes ressources, plus, mais de moins bonne qualité. Et le fait est que, comme ces spermatozoïdes étaient, donc c'est ce qu'on a appelé par définition des spermatozoïdes, donc des toutes petites cellules, des petits gamètes, ils étaient un peu comme des tricheurs quelque part, parce que eux, ils apportent aucune ressource dans cet échange qui
des
se fait.
Des parasites un peu.
Oui,
hein,
c'est un peu des parasites. Hein. Bah, quelque part, si on regarde un virus, c'est un organisme qui va injecter son ADN dans vous pour se reproduire. Que fait un mâle ? Bah, il injecte son ADN et rien d'autre, aucune autre source, et il exploite une machinerie, la femelle, pour se reproduire.
Donc tricheurs et parasites les mâles, hein. Pour le moment on en est là,
définition. Je suis un peu désolé.
C'est vous qui le dites, allez.
C'est moi qui le dis, je suis un parasite. Mais en gros l'idée c'est que du coup la femelle, enfin en tout cas l'autre partie de la pièce, le partenaire, s'est retrouvée avec le gars en face qui réduit la taille de ses gamètes et à un moment il faut réagir parce que sinon les petits vont être, la descendante va être complètement... mauvaise en termes de qualité, parce qu'il n'y aura aucune ressource qui sera investie dans eux.
Donc il faut qu'il y ait en descendance des mâles et des femelles.
Voilà,
c'est
donc ça. Du coup, la réponse inverse, quelque part ce qu'on appelle une stratégie évolutivement stable, ça a été de grossir, donc ce qui a été l'invention de l'ovule. Donc voilà, on se retrouve avec un gamète qui triche en devenant plus petit, et un gamète qui du coup réagit en devenant plus gros et en assumant le coût des ressources que l'autre ne veut plus assumer. Et là, ça donne des individus qui sont à peu près OK, qui sont nous.
Voilà l'explication des deux sexes, mâle et femelle. On y reviendra aussi, mais il y a beaucoup d'animaux qui sont les deux à la fois, qui sont hermaphrodites.
Voilà, encore une fois, c'est très compliqué de parler du sexe, et j'imagine et de travailler dessus aussi, parce que on mélange toujours tout un tas de concepts. Donc, c'est des individus qui portent à la fois des caractères mâles et des caractères femelles, ils portent les organes sexuels des deux types. Et ils peuvent parfois même s'auto-féconder s'ils veulent, et ils peuvent féconder les individus de deux types.
Ouais. Les escargots, par exemple.
Après, il y a tout un tas de poissons qui sont hermaphrodites, mais séquentiels. Donc, ça veut dire qu'ils commencent peut-être...
Selon les besoins.
Voilà, selon les besoins, ou en fonction de facteurs extérieurs, genre la température, tout ça. Ils commencent femelles, ils finissent mâles, et ou ils redeviennent femelles, ou ils redeviennent mâles. Enfin, ça peut changer comme ça plusieurs fois au cours de la vie.
Son commentaire, Léo Grasset, Sexual Eruption Now, Snoop Dogg sur RFI. I'm gonna take my time.
She gon' get hers before I'm gonna take it slow. I'm not gonna rush the stroll so she can get a sexual eruption. So I can get a sexual eruption. So we can get a sexual eruption. Sexual eruption.
I was all in the club, sipping some beer, smoking on the blunt of dro when I peeped this little hoe out. I was all in the bar when Drifter, shorty red came on, then she hit the flow now. With a see-through dress, long hair, light brown eyes, looking like Miss Bo Peep. And a nigga know if I take her home with them wide-ass hips, you're damn right I'm gon' be. So I approached the chick with a real pretty face, big-ass booty with a little bitty waist. I whispered in her ear, little mama, what you drank? I know that you were free, but you know I ain't gon' say shit. See, my game is outrageous. I got her to the crib and exchanged some fuck faces. But it wasn't no use for me to rush to bust one, cause I wanted her to have an eruption.
Sexual eruption.
A sexual eruption.
Yeah. Sexual eruption.
Whoa. Orgasm.
Sexual eruption. Sexual eruption. Sexual eruption.
All the time, anytime.
Paris, 89 FM.
Autour de la question du sexe.
Pourquoi et comment raconter la grande aventure du sexe en bande dessinée ? Défi relevé par notre invité Léo Grasset, créateur de la chaîne YouTube Dirty Biology et auteur avec son frère, le dessinateur Colas Grasset, de la grande aventure du sexe aux éditions Delcourt. Une aventure cosmique à partager depuis son invention par les premières bactéries jusqu'à nous, arrêt sur l'image du plus bel organe sexuel qui soit. La fleur, le sexe des plantes, comme nous le rappelait ici même le philosophe et botaniste Emmanuel Ecoccia.
La fleur est aussi, en tant qu'organe sexuel, l'organe de la rencontre avec d'autres individus de la même espèce, mais surtout avec d'autres individus d'espèces différentes, car le sexe pour les plantes n'est pas une affaire juste entre deux individus de la même espèce, mais c'est une affaire cosmique. Les plantes impliquent les abeilles, les insectes, les vents, donc le sexe est un acte qui implique tous les mondes et pas juste deux individus de la même espèce.
Le sexe, aventure cosmique ou partout géante carrément, dont les fleurs seraient le plus bel organe, Léo Grasset, ça doit vous inspirer.
Ah oh oui, ça m'inspire. La reproduction des végétaux, c'est tellement, tellement étrange, tellement différent de nous que forcément, quand on est biologiste, on s'arrête deux secondes pour contempler cette diversité-là. Dans la bande dessinée, on parle à un moment de la reproduction des figues.
Oui.
Qui est, je pense, un des cas les plus tordus, en fait, que l'évolution a réussi à créer.
Et racontez-nous cette reproduction du figuier.
Alors, ça a été vraiment très, très bien dessiné par mon frère. Il est vraiment fort pour mettre en image tout ça. Et en fait, donc, comme il l'a dessiné, donc on commence, toute l'histoire, elle commence avec une figue qui est en fait, à la base, une fleur repliée. Donc, en gros, les fleurs, donc c'est une inflorescence repliée. Il y a plein de petites fleurs qui sont à l'intérieur d'un sac. Et ce sac... débouche sur un seul trou qui est au bas de la figue. Et c'est par ce trou que rentrent ce qu'on appelle des agaonides, donc des sortes de guêpes, qui, seulement des femelles d'ailleurs, parce qu'on ne voit que des femelles dans la nature, les mâles resteront toute leur vie à l'intérieur de la figue, ce qui est assez incroyable, ça veut dire qu'ils naissent et meurent à l'intérieur de la figue. Donc les femelles rentrent à l'intérieur de la figue, elles vont commencer à polliniser un petit peu, parce qu'elles portent sur elles du pollen de figue, elles vont polliniser toutes les fleurs comme ça en bougeant à l'intérieur de la figue, et puis elles vont déposer leurs ovules à l'intérieur de fleurs spéciales qui les attendent. Donc la figue a créé, rien que pour ces guêpes, des fleurs spéciales dans lesquelles elles vont pondre leurs ovules. Donc on a en fait une figue qui est quelque part des fleurs, des vraies fleurs, et des fausses fleurs qui sont des nurseries de guêpes. Déjà, là, c'est déjà assez fou. Donc là, une fois que c'est fait, la guêpe ressort et les mâles vont se réveiller. Ils vont sortir en premier de ces fleurs pour guêpes et ils vont aller ouvrir les cavités pour les autres fleurs, donc en fait pour les femelles. Donc les femelles restent à l'intérieur de ces fleurs à guêpes jusqu'à qu'un mâle vienne leur ouvrir avec leur petite mandibule. Les mâles sont des êtres très laids, ils sont quasiment aveugles puisqu'ils n'ont pas besoin de yeux, puisqu'ils restent toute leur vie à l'intérieur de la figue. Et par contre, ils ont un énorme pénis. Et donc, ils vont ouvrir en fait cette fleur à guêpe. Ils vont réussir à sortir la femelle de cette fleur à guêpe. Mais avant de la sortir, ils vont la féconder. Voilà.
Donc, avec leur énorme pénis.
Donc, le premier contact du monde de la femelle guêpe va être un pénis d'un mâle. Puis, le mâle va, une fois qu'il aura fini sa besogne, va aller ouvrir une cavité dans la paroi de la figue et va mourir. Donc en gros, le mâle va peut-être réussir à voir la lumière du jour et puis il va terminer sa vie comme ça.
Donc c'est pas un très joli destin d'être mâle guêpe, mais ça illustre quand même en plus une collaboration incroyable entre la figue, la guêpe.
Oui, c'est incroyable. Et en fait, surtout ce qui est fou, c'est que chaque figuier est en symbiose, puisque là on parle de symbiose, avec une espèce, ou peut-être grand max deux, de guêpes agaonides.
Qui sont spécialisés dans la reproduction de la figue.
Donc on a vraiment un couple, mais interespèces, de deux espèces qui ne peuvent pas faire leur reproduction l'un sans l'autre. Et à ce niveau-là de spécialisation, et puis à ce niveau-là de cycle de vie, dans lequel en fait les insectes passent toute leur vie à l'intérieur de la guêpe, on est dans quelque chose qui est pour moi complètement étrange. Si on essaye d'appliquer ça à des humains, on part dans quelque chose de complètement métaphysique.
Des scénarios de films porno n'aurait jamais imaginé ça,
non,
en fait.
Ils n'auraient pas osé.
On se dit que finalement les humains ne sont pas du tout aussi inventifs que ça, parce que dans le règne végétal, comme dans le règne animal, y a du parfum, il y a des odeurs attirées par la vie, par des couleurs, il y a des chants aussi, les fameuses phéromones, enfin, il y a une variété dans la nature d'outils de séduction, d'outils sexuels. Je disais que votre frère s'est bien amusé en les dessinant, mais pareil, au niveau des organes sexuels, c'est complètement insensé. Oui. Les formes, les usages aussi.
Complètement. Et même, je pense que même dans les concepts même, c'est-à-dire imaginer qu'on ait besoin d'une autre espèce pour faire sa reproduction, comme mon frère l'a dessiné, c'est finalement un bonhomme qui donne un bidon de sperme à un chien pour que le chien amène le sperme à une autre femme. Et là, on est dans... En fait, c'est ça, littéralement, c'est ça, en fait, la reproduction d'une plante. On a besoin d'une autre espèce pour faire ça. Et moi, je trouve que cette idée-là, elle est presque révoltante. Enfin, en tout cas, c'est très crade quand on l'applique à nous. Et le monde vivant, c'est que ça. C'est que des concepts comme ça, où toutes nos valeurs, elles s'effacent.
Voilà. Oui, c'est ça. Pas question de valeurs, là. Hein. Autour de la section, pourquoi le sexe et pourrait-on s'en passer ? Nouvelle question pour vous, celle de l'éthologue Antoine Vistrache, qui lui est spécialiste des fourmis. On l'écoute.
Chez certaines espèces de fourmis, Cataglyphis hispanica, je crois, le sexe, donc entre le mâle et la future pondeuse, ce n'est pas dans le but de mélanger les chromosomes, mais ça reste complètement séparé, comme si c'était une voie clonale pour le mâle et une voie clonale pour la femelle, bien que les chromosomes du mâle passent par la femelle. Et du coup, je me demandais finalement, quand on dit sexe, combien il y a d'histoires différentes à travers le règne animal. Notre sexe d'humain est peut-être qu'un petit cas particulier de mammifère.
Vous pouvez répondre à cette question, combien il y aurait de cas de sexe animal? C'est hallucinant, c'est impossible.
Millions, ouais, des millions. Je pense que quand on regarde ne serait-ce que la reproduction des algues, quelque chose qui n'a pas l'air
très sexy au départ,
quelque chose qui n'a pas l'air extrêmement sexy, mais en fait qui est vachement étudié, parce que donc nous on alterne entre phase diploïde, donc c'est quand on a deux copies de notre génome, donc nous, en fait, nos corps, et la phase haploïde, donc quand il y a une seule copie, qui est nos gamètes, donc le sperme, le spermatozoïde
ou les ovules.
Voilà. Et donc on a ces deux phases. Et il y a donc ces algues qui ont, elles, trois phases, et donc ça devient assez difficile à se représenter, mais elles ont une phase haploïde, elles ont une phase diploïde, et elles ont une autre phase qui est triploïde. Donc il y a à un moment dans leur vie, dans leur cycle de vie, où elles vont avoir trois copies de leur génome. Et c'est une autre forme d'individu. Je ne sais pas exactement comment... par exemple, si on voulait le mettre sous la forme humaine, il faudrait imaginer que dans la rue, il y a des gens qu'on croise qui aient non pas deux copies de leur génome, mais qui en aient trois. Et que c'est une autre forme. C'est-à-dire qu'on sait qu'un jour, on deviendra comme eux. Nous aussi, on passera de la forme diploïde à haploïde. Il y a des mousses qui, elles,
des
hépatiques, donc vraiment les mousses qu'on retrouve dans la forêt.
Vertes.
Les mousses vertes. Et bien, ces mousses-là, elles, le plus long moment qu'elles passent de leur vie, de leur cycle de vie, en fait, c'est la forme haploïde. Donc, en fait, elles passent ce qui ressemble pour nous aux spermatozoïdes et ovules. Et elles, c'est le plus long moment de leur vie. Et la phase diploïde, donc la phase qui nous ressemble en termes de notre corps, elle est très courte. C'est juste pour la reproduction. Donc, en fait, c'est très drôle parce que voilà, on est dans un monde où tout est étrange. Et quand on commence à faire de la biologie et à s'intéresser à plus que juste les mammifères ou juste plus que même les animaux, on se rend compte que on n'a pas besoin d'aller sur d'autres planètes pour trouver des extraterrestres parce qu'ils sont juste là. En fait, il y a des choses qui fonctionnent de façon tellement étrange par rapport à nous que on a même du mal. Enfin, il nous faut vraiment quelques minutes pour réussir à comprendre l'application de ce que c'est et pour réussir à la faire une métaphore avec notre espèce, on est complètement perdu quoi.
La sexualité des végétaux, finalement, vous impressionne presque plus que la sexualité des animaux, on pourrait le dire comme ça. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné, vous, alors, dans le côté positif, qui vous a plu, qui vous a amusé, que vous aimeriez tenter, peut-être et qu'est-ce qui vous a dégoûté, vraiment
Moi, je pense, j'arrive pas trop à être... Bon, si, il y a quand même des moments où j'arrive à être dégoûté, mais... par exemple, il y a quelque chose dont j'ai pas trop parlé dans la bande dessinée, mais c'est l'insémination traumatique. Il y a des espèces, notamment les punaises de lit, qui ont pour mode d'insémination l'insémination traumatique. C'est-à-dire que le mâle va juste transpercer la femelle n'importe où dans le corps et va libérer son sperme et va espérer que finalement le sperme récupère, se mélange avec la lymphe et aboutisse à un moment donné sur les ovaires pour créer des œufs. Toute la reproduction de cette espèce est dans une violence pure, parce que les femelles en plus subissent cette pénétration qui est pour le coup vraiment une pénétration violente, et parfois meurent d'infection, etc. Parce que ça crée quand même une plaie. Donc là, on pourrait commencer à se dire, ah, c'est dégoûtant, et c'est triste.
Sexualité uniquement violente, voilà. Chez les punaises de lit. Hein.
C'est ça. Mais en fait, le truc chouette avec l'évolution, c'est que c'est toujours un ping-pong, et il y a des espèces chez lesquelles les femelles ont acquis, au cours de l'évolution, un organe sexuel qui est sur tout le corps, ce qu'on appelle un spermalège, et en fait c'est comme si elles avaient quelque part des utérus absolument partout sur tout le corps, qui sont là pour gérer
les percements du mâle, les pénétrations forcées du mâle.
Voilà. Et en fait, au final, pour elles, c'est devenu, ok, c'est une sorte de défense, et même ces organes sexuels qui sont partout sur tout le corps, ont même le moyen de choisir le sperme du mâle qui va la féconder. Donc plusieurs mâles vont la transpercer, et elle pourra décider.
Moi, je préfère celui-là.
Voilà, celui-là, il me plaisait. Et je trouve que c'est très chouette parce que c'est ça l'évolution, en fait. Il y a une innovation qui prend un peu l'avance, et puis il y a la réponse qui répond et qui prend un peu d'avance, etc., etc. Et ça s'arrête jamais.
Et l'évolution, on la voit complètement à l'œuvre, évidemment, dans le sexe, comme une métaphore de l'évolution, pour comprendre l'évolution.
Ouais,
aussi.
Vraiment. Je trouve que le sexe, c'est, pour moi, en tant que biologiste évolutif et en tant que communicant scientifique, c'est peut-être le meilleur outil pour expliquer l'évolution, parce que ça se fait très vite, parce qu'on a à peu près tous les concepts majeurs de l'évolution. On a mutation, sélection naturelle, on a la coévolution aussi, donc ce dont je viens de parler, c'est-à-dire que quand il y a un des partenaires qui change, l'autre aussi change. Il y a aussi ce modèle clé-serrure, c'est-à-dire que si le pénis des humains, par mutation, changeait d'un coup, eh ben, il faudrait bien que l'organe sexuel féminin, il change aussi.
Voilà, s'adapte.
On est dans des modèles clé-serrure, donc on a de la coévolution, on a vraiment tous les concepts majeurs de la biologie évolutive se retrouvent dans le sexe, donc pour moi c'est vraiment l'outil parfait.
Il y a la guerre du sperme aussi. Hein,
Alors ça c'est quelque chose dont j'ai pas pu parler dans la BD mais que je trouve fascinant.
Il y a une vidéo sur votre site YouTube, je ne saurais trop le conseiller à nos amis auditeurs internautes, c'est excellent.
Ouais, c'est une vieille vidéo pourtant. Mélanger
Gengis Khan à un verre de sperme,
c'est
enfin,
ça. Ouais.
J'en dis pas plus.
L'idée c'était de faire une métaphore en fait, parce qu'il y a des espèces chez qui il y a différents types de spermatozoïdes, un peu comme les différents types de soldats dans l'armée de Genghis Khan. Et donc voilà. Donc en fait, même se dire qu'il peut y avoir, que l'évolution peut arriver jusqu'à créer différents types de spermatozoïdes, avec des spermatozoïdes qui sont uniquement là pour tuer ceux des autres mâles concurrents, c'est dire, ok, en fait, ça va jusque là l'évolution. Ça peut être absolument partout, quoi. Donc voilà. Pour moi, c'est un terrain de jeu incroyable pour raconter l'évolution, le sexe.
Autour de la question pourquoi le sexe, on continue sur ce terrain de jeu, notre terrain de jeu favori à tous, on pourrait le dire. On écoute le plus sexy peut-être des chanteurs, le regretté Prince, dans un de ses tubes, Sexy Motherfucker.
RFI à Paris, 89 FM. In a word or two, what you I wanna do, no, not your body and mind, you fool. Come here, baby, yeah. You sexy motherfucker. We're all alone in the villa on the Riviera. Got some friends on the south side in case you care. Out of all of your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so you'll be the mostest. When it comes to life, to be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of, in other words, it's R.E.M. meaning of this thing called love. Are you up on this? It's something you can get up off a hug and a kiss. Come here, baby. You sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love. Being in charge of this, a life and the next. Why all the cosmic talk? I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love. Being in charge of this, a life and the next. Why all the cosmic talk? I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Horn, stand up, please.
Sur RFI, autour de la question pourquoi le sexe, question ouverte sur Dirty Biology, la chaîne YouTube de notre invité Léo Grasset, qui vient de publier en bande dessinée La grande aventure du sexe. Mais jusqu'où le sexe nous mènera-t-il et jusqu'à quand? Nouvelle question pour vous, posée par le biologiste et auteur Jean-Baptiste de Panafieux.
Il y a des animaux chez lesquels il n'y a plus que des femelles. Est-ce que c'est notre avenir à tous?
Votre réponse, Léo Grasse, c'est vrai qu'il y a des animaux chez qui il n'y a plus que des femelles.
Ouais, il y a tout à fait. Il y a même quelques espèces qu'on connaît chez les lézards. Après, c'est souvent des espèces où soit on est dans le cas de lignées où ça fait pas très longtemps qu'il n'y a plus que des femelles, donc on ne sait pas si ces lignées-là vont réussir à survivre au cours des temps géologiques ou pas.
Parce que qu'est-ce qui se pose comme problème? Les femelles ne peuvent faire que des femelles, c'est
ouais,
ça?
Exactement. Alors une fois qu'on est dans ce mode-là, donc ça devient du clonage. Les femelles produisent des femelles qui produisent des femelles. Et un énorme problème du clonage, c'est que tout le monde finit par se ressembler. Et que dès qu'il y a une maladie, un parasite, un champignon, quelque chose, tout le monde meurt de la même façon. Un petit peu comme ce qui s'est passé pendant la famine en Irlande avec les patates. Comme toutes les patates étaient issues d'un clone, toutes les patates ont subi la maladie de la même façon et les gens ont eu des petits problèmes pour s'alimenter ensuite.
Ce qui veut dire que les mâles, on a dit qu'ils étaient un peu parasites et un peu tricheurs, ils ont quand même un intérêt.
Bien sûr, en fait, c'est que la reproduction sexuelle, en tout cas le sexe, il apporte énormément de diversité. Et c'est... pour l'instant, ce qu'on pense être le vrai gros avantage du sexe, parce que c'est vrai que le sexe, a priori, ça semble très désavantageux, puisqu'on est obligé de se mettre à deux pour faire un nouvel individu, alors qu'avec le clonage, il suffit d'être tout seul pour faire un nouvel individu. Donc ce coût-là est sans doute contrebalancé en grande partie par le fait que le sexe génère de la biodiversité, il rebat les cartes en permanence par le processus qu'on appelle la recombinaison, et... du coup, quand il y a un parasite qui arrive, il doit de nouveau réinventer un petit peu cette attaque parce qu'on a en face une personne qui est différente et qui a une nouvelle défense. Et donc c'est ça en fait. Vraiment, avec cette nouvelle forme de diversité, on est moins sensible aux maladies. En tout cas, il y a certains individus, quand une nouvelle maladie arrive, certains individus réussissent à survivre. Donc pour l'instant, la plupart des espèces qu'on connaît qui se reproduisent plus que par le clonage, soit c'est des espèces qui font ça que depuis très peu de temps, en tout cas très peu de temps à l'échelle évolutive, donc quelques millions d'années, soit en tout cas pour l'instant on a un exemple d'une espèce qui fait ça depuis vraiment longtemps, depuis 60 millions d'années et plus, c'est les rotifères bdelloïdes, donc c'est un tout petit organisme qui est invisible à l'œil nu, et donc
qui a une capacité de survie, d'adaptation extraordinaire,
incroyable, oui, comme beaucoup de micro-organismes quand même, faut le dire, parce qu'ils ont souvent cette capacité de se mettre en dormance et de s'assécher en fait pour pouvoir attendre que les temps redeviennent meilleurs, mais donc cet organisme-là tire profit de ses capacités de survie pour, dès qu'il y a un parasite, dès qu'il y a un problème en fait environnemental et qui pourrait mettre en danger toute la population de la même façon, parce que tout le monde se ressemble, donc ils se mettent en dormance, ils s'assèchent et ils se laissent porter par le vent pour partir à un autre endroit où il n'y a plus cette menace. Et donc, pour l'instant, c'est à peu près la seule espèce où on a vu que ça fait des dizaines de millions d'années qu'il n'y a plus de mâles et qu'il n'y a plus de reproduction sexuée.
Donc chez eux ça marche, enfin chez nous les humains
On aurait des problèmes. Si on était tous, si on était tous pareils, le moment où il y a une nouvelle grippe espagnole ou même juste une grippe, si on était tous pareils, on aurait tous la même réaction face à cette grippe. Et probablement qu'on finirait par s'éteindre assez vite.
Donc vive le sexe, ça va continuer encore longtemps, même si dans cette grande aventure du sexe, vous ne parlez pas beaucoup de la sexualité humaine parce qu'elle est trop complexe.
Ah oui, vraiment. Je pense que le problème, enfin un problème entre guillemets, c'est aussi quelque chose qui nous rend plus intéressant, c'est que pour nous le sexe c'est pas juste la reproduction, c'est tellement plus. Et tout à l'heure on parlait du fait que sexe ça voulait dire plein de choses, ça voulait dire les organes sexuels, l'acte reproducteur, ça veut dire l'identité, etc. Et en fait chez nous ça veut dire encore plus de choses, on se définit aussi par le genre, donc c'est pas juste ce que la biologie nous a offert mais ce qu'on a décidé d'être ou ce qu'on sent qu'on est, ça veut dire les désirs, les tabous, tout à fait, on rajoute des couches culturelles
la culture,
ouais, on fait pas du sexe de la même façon à New Delhi comme à New York, donc c'est sûr que...
On ne le fait pas n'importe où, devant tout le monde non plus.
Pas n'importe où, ça dépend des endroits, mais... Donc c'est ça. Pour moi, ça mérite vraiment un autre tome à part entière, et là, c'est plus juste des compétences de biologiste, mais c'est aussi des compétences sociologue, philosophe, ethnologue, tout ça.
On va quand même vous poser une question à ce sujet, c'est pas moi qui vous la pose, c'est Jean-François Marmion, qui est rédacteur en chef de la revue Le Cercle Psy.
On dit que chez l'humain, la sexualité et la procréation se sont dissociées au fil du temps. Est-ce que la sexualité va finir par se dissocier du corps? Parce qu'il est question de recherches scientifiques visant à nous coupler à des machines, à des logiciels, à des univers virtuels dans lesquels on pourrait avoir une vie sexuelle sans partenaire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable?
votre réponse personnelle, Léo Grasset.
Alors, souhaitable, je ne sais pas, je n'ai pas envie d'émettre de prescription. Est-ce que c'est possible? Ça me semble assez bien parti. Si on regarde actuellement les... L'industrie de la pornographie, typiquement, c'est une industrie extrêmement active en termes de technologie. Ils développent beaucoup de choses. Et quand il y a eu ces histoires de casques de réalité virtuelle, ça a été parmi les premiers à investir très sérieusement dedans et à faire des films en réalité virtuelle.
Des films pornographiques des en films réalité virtuelle.
Voilà.
Donc, on s'y croit complètement.
Il faut avoir un casque. Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé, mais je veux bien tester. Ça me semble
pour votre prochaine,
intellectuellement très intéressant.
Sujet d'antibiology.
Mais ce que je me dis, c'est que si cette tendance continue et que, je ne sais pas, avec tout ces histoires de transhumanisme, on commence à peut-être être plus connecté ou connecté différemment ou avoir plus de sens en termes de perception, hein, je parle. Je pense que la tendance qui suivra, ce sera de lier ça au sexe assez vite. Et par exemple, l'industrie pornographique, je pense qu'eux, ils vont suivre tout ça de très très près pour essayer d'offrir de nouvelles expériences à leurs utilisateurs. Après, est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas émettre de prescription. À mon avis, si les gens se jetteront dessus, c'est qu'ils en auront envie, donc laissons les gens faire comme ils veulent.
En même temps, jusqu'à maintenant, le sexe, c'est tout de même ce qui fait de nous tous des vivants. Et c'est ce qui se pratique dans tout le monde vivant, quelle que soit la forme de vie.
Oui, pour l'instant, le sexe, ça reste quand même une histoire de biologie et d'organisme vivant. J'ai assez hâte d'être dans le futur pour voir à quel point ça évolue et à quel point on devient intime avec la machine, parce que ça pourrait aussi arriver.
Je ne sais pas comment vous nous raconterez ça, mais qu'est-ce qui a été le plus difficile à raconter ou à dessiner dans cette grande aventure du sexe, Léo Grasset?
Alors, assez paradoxalement, en fait, c'est pas du tout quelque chose qui est très grivois. Donc, en départ de la BD, c'est écrit à notre mamie. Et en fait, on a écrit tout à la fin un chapitre sur pourquoi les grand-mères existent. Et pourquoi est-ce que chez quelques espèces de mammifères, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4, 5, il y a des grand-mères, c'est-à-dire des femelles qui survivent après la reproduction, voilà, qui ont la ménopause en fait, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'il y a de la ménopause? C'est une autre façon de poser la question. Et donc cette partie a été un peu difficile à écrire, parce qu'en fait c'était un moment où notre grand-mère n'allait pas bien, et elle est finalement décédée. Et donc c'était un moment où... on est dans une BD extrêmement rigolote et très crade et machin, et bien tout d'un coup ça devenait un peu plus intime. Donc voilà, c'était un peu plus dur pour nous de le faire, mais on est content de l'avoir fait. C'était quand même important. Ouais.
Sur quoi travaillez-vous en ce moment? Parce que vous êtes non seulement sur votre chaîne YouTube, sur cette grande aventure du sexe, vous préparez aussi, je crois, des documentaires. Vous êtes allé à Madagascar, au Canada, et vous résidez à l'année en Thaïlande.
Oui, j'ai beaucoup voyagé là très récemment. L'idée, donc, dans les mois qui viennent, il y aura une vidéo que j'ai tournée avec mon frère d'ailleurs, qui m'accompagne souvent, qu'on a tournée tous les deux au Québec il y a 2 ans déjà. Donc on a un peu laissé traîner ce projet, mais on est en train de le reprendre. Donc celui-là, ce sera sur l'évolution humaine. C'est essayer de répondre à la question « Est-ce que l'homme évolue encore ?» Et il y a une autre vidéo que là, ce coup-ci, j'ai tournée à Madagascar et qui essaye de répondre à la question humblement « Comment sauver le monde ?»
Voilà. Humblement, comment sauver le monde? Et l'homme évolue encore? Oui, vous, Léo, vous évoluez, hein, donc on évolue encore tous.
Tout le monde évolue encore, voilà.
Merci infiniment d'être venu nous faire partager toutes ces pistes d'évolution et de sexualité. Je rappelle à nos auditeurs et internautes que nous avons un exemplaire de votre bande dessinée Dirty Biology, la grande aventure du sexe, dessinée donc par votre frère Cola, qui vient de paraître aux éditions Delcourt. Un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs ou internautes, si vous nous donnez bien votre adresse postale. Vous pouvez aussi sans façon, amis internautes, vous connecter sur Dirty Biology, donc votre chaîne YouTube, Léo Grasset. Le lien est sur notre page et on apprend toujours quelque chose sur le sexe, mais pas seulement. Vous n'êtes pas obsédé que par le sexe.
Non, non.
Dirty Biology, c'est un peu crâne, un peu sexe, mais pas que.
Non, j'essaie de parler de tout. Philosophie, géographie, anthropologie, tout ce qui m'intéresse.
Merci beaucoup, Léo Grasset. Vous revenez quand vous voulez. Vous repartez quand en Thaïlande?
Le 30.
Et pourquoi la Thaïlande, juste
Parce que c'est chouette, parce que c'est vraiment bien. Ouais. Et il y fait bon vivre, et la vie n'est pas chère, et il fait beau, et les gens sont sympas.
Bon retour en Thaïlande, merci.
Merci.
De la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous télécharger, à nous podcaster sur le site de RFI et sur le site de RFI Pure Radio. Portez-vous bien, restez curieux, à l'écoute de RFI, gardez l'esprit libre et ouvert. Dans quelques instants, ce sera l'heure d'un nouveau journal sur la Radio Mondiale.